Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous qui nous avez rejoints rue de Sèvres, pourtant classés en zone d'alerte maximale. Et bonsoir à celles et à ceux qui nous voient et nous écoutent en retransmission dans différentes régions de France. Ce mardi 6 octobre est notre premier mardi d'éthique publique de la saison 2020-2021. Même si nous avons eu le privilège d'accueillir déjà Gaël Giraud le 15 septembre dernier pour une conférence exceptionnelle. Nous souhaitons tous, bien sûr, que cette saison qui s'ouvre puisse aller à son terme. Le thème qui sera ce soir au cœur de nos débats est « Prendre soin, le retour du car ou du care ». Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot anglais « care » traduit selon les cas par « soin » ou encore « sollicitude ». L'inscription du care à l'agenda politique français est en général attribuée à Martine Aubry. En 2010, la maire de Lille déclarait à Mediapart « La société du bien-être passe aussi par une évolution des rapports des individus entre eux. Il faut passer d'une société individualiste à une société du care, selon le mot anglais que l'on pourrait traduire par « soin mutuel ». La société prend soin de vous, mais vous devez aussi prendre soin des autres et de la société. À peu près au même moment, l'excellente revue Études publiait sur ce sujet un article d'Agatha Zielinski où figurait cette définition du care empruntée à la philosophe américaine John Tronto. Le care est une activité caractéristique de l'espèce humaine qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir, de perpétuer et de réparer notre monde afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nos personnes, et notre environnement, tout ce que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Quelle est aujourd'hui la place de cette éthique du care dans les débats sociaux et politiques français? La pandémie de Covid-19 a-t-elle remis en valeur ce thème qui place le prendre soin au cœur de la vie relationnelle? Pour nous éclairer sur ces questions, parmi beaucoup d'autres, et nourrir le débat qui suivra leurs interventions, nous avons le plaisir d'accueillir Bertrand Galichon, médecin urgentiste, président du Centre catholique des médecins français, et Bruno Saintot, jésuite, responsable du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres. Et c'est le docteur Galichon qui prend le premier la parole.
Merci, bonsoir à tous. Alors moi j'avais quelques réflexions préliminaires avant de commencer mon petit topo. J'étais en premier lieu surpris de ne pas avoir vu de ponctuation après le titre « Prendre soin, retour du care ». Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est un constat? Est-ce que c'est une interrogation? Est-ce que c'est une incantation? Ou est-ce que c'est une nécessité? Je crois que les quatre interrogations, les quatre façons de voir la question sont pertinentes à l'heure actuelle, surtout à travers ce que nous vivons à l'heure actuelle. J'ai toujours été gêné par cette définition du care versus le cure. Cette espèce de dualité laisse entendre qu'il y a deux champs techniques différents et qu'on va passer de l'un à l'autre. Quand vous êtes dans un service hospitalier et que vous dites à une famille, eh ben voilà, il va falloir réfléchir à l'organisation des soins palliatifs, c'est-à-dire éminemment du care, stricto sensu et de façon quasiment exclusive, et les choses sont extrêmement mal reçues parce que ça veut dire qu'on tire l'échelle. Et quand on est le cure, on est proactif, on est les champions du monde et on fait de la technique et tout va très bien. Donc il y a cette espèce de dualité qui fait que dans les esprits, bien souvent, et dans les esprits des jeunes soignants à l'heure actuelle, qu'ils soient médecins ou infirmiers, il n'y a pas d'espace commun entre ces deux champs, ces deux façons de prendre en charge la personne. En français, on a un mot qui s'appelle le soin. Voilà. Et il peut être utilisé soit avec un verbe devant, prendre soin, soit il est utilisé au singulier ou au pluriel. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de parler en français parce que cette notion de soin renvoie quand même à une unité. Alors, vous parlez de soins au pluriel, je vous renvoie traitement au pluriel, d'accord ? Ce sont des soins différents, de techniques différentes que vous allez faire au même patient. Le soin, il est unique, d'accord ? Et il, à l'inverse, les soins intéressent des symptômes différents. Le soin, il est unique et il s'adresse à une personne unique. Et ça me paraît beaucoup plus pertinent parce que on a comme ça un continuum entre le soin au pluriel, les soins au pluriel et le soin au singulier. Ensuite, il y a souvent un verbe qui est mis devant le verbe soin et je crois qu'il faut s'en méfier, c'est prendre. On prend soin. Alors effectivement, tout le monde l'entend comme le soin porté à quelqu'un. Mais aussi, ça peut être entendu comme un mouvement surplombant, un mouvement de possession de la personne par le mot « prendre ». Je prends la personne, et ce qui veut dire que sa liberté, sa dignité sont peut-être sous ma responsabilité, sous le soin que je vais pouvoir lui apporter. Donc voilà. On est devant des mots qui sont, quand on les utilise, finissent par dire le fond de la façon dont on peut apprécier, la façon dont on peut soigner une personne. Alors, quel est l'objectif de soin ? En fait, je crois qu'il est illusoire à l'heure actuelle, et même... à l'heure actuelle, c'est de considérer que quand quelqu'un est malade, le soin ou les soins qu'on veut lui porter vont entraîner un retour à la case départ avec un retour ad integrum. Je pense que c'est complètement faux et quelle que soit la pathologie à laquelle nous sommes confrontés, qu'elle soit bénigne ou plus sérieuse, il y a une mémoire du corps. Quand quelqu'un arrive avec une douleur thoracique dans un service d'urgence, vous lui posez la question de savoir si c'est la même douleur que son infarctus qu'il y a eu il y a 20 ans, la personne vous répond toujours oui ou non. Et c'est un élément de la clinique qui est extrêmement important à prendre en compte. Donc il y a une mémoire et il n'y a pas de retour à l'antériorité. Et l'avènement des maladies chroniques nous oblige à avoir ce regard, à penser autrement, et donc on doit vivre à l'heure actuelle avec des maladies incurables, des malades incurables, mais qui font partie de notre entourage, notre vie de tous les jours. Et ça change pas mal notre façon de voir notre fonction de soignant. Et notre fonction de soignant, c'est pas de guérir le malade, c'est bon, évidemment, mais c'est surtout de transformer le malade en patient. Le patient, pour moi, c'est le malade qui sort de l'état de sidération dans lequel il est enfermé par sa maladie pour l'inscrire dans sa biographie. Et donc, sa maladie va lui donner un sens. Il va répondre à deux pourquoi, un pourquoi en premier avec un seul mot, souvent très difficile de trouver la réponse, et parfois il est beaucoup plus facile, toute chose égale par ailleurs, de trouver une réponse au pourquoi en deux mots, au pourquoi faire, et qui ça réoriente une vie, et ça donne du sens. Plein de personnes qui ont eu une maladie comme ça, qui a marqué un avant et un après, vous font part de cette expérience. Quand vous prenez en charge un homme ou une femme aux urgences, alors il arrive avec un prétexte qui est sa maladie, qui est sa douleur, le symptôme, l'accident, ce que vous voudrez. Mais en fait, la première chose qu'il fait, c'est qu'il vous amène, il vous dépose à vos pieds ou à votre responsabilité, une histoire. Un malade est avant tout une histoire, avant toute chose. C'est comme ça qu'un soir, un matin, il est 4 heures du matin, on voit arriver aux urgences une équipe de pompiers qui sont de la couleur des murs, ils sont verts, et ils accompagnent un monsieur qu'on connaît parfaitement, monsieur H. Et monsieur H a l'immense avantage d'être SDF, cujat et en fauteuil. Nous sommes en plein hiver. Qui dit plein hiver dit épidémie de gastro-entérologie. Donc qui dit gastro dit vomissement, diarrhée. Et monsieur H est arrivé nu comme un ver, entièrement souillé, son fauteuil aussi. Et là, monsieur H est un peu ivre, comme d'habitude. Et là, il nous engueule, mais comme du poisson pas frais, avec nous traitant de tous les noms d'oiseaux. Et à un moment, à travers tout sa vindicte, il revient à quelque chose de sérieux et il me dit « Écoute, Toubib, tu vas enlever ta blouse et tu vas comprendre ce que je vis. Et donc, tu vas me faire l'injection que je te demande de faire. » Alors, à 14h du matin, vous n'avez pas obligatoirement tous les esprits pour pouvoir lui répondre de façon intelligente. Même à midi, on ne fait pas de réponse intelligente, on fait une réponse benoîte. Du petit boy scout avec sa BA qui protège sa bonne conscience, son institution et tout ce que vous voudrez. Et vous lui dites, ben non, monsieur H, vous inquiétez pas, on va prendre une douche, votre fauteuil aussi, on va vous donner à manger, on va vous mettre sur un brancard, vous allez dormir, et puis roule ma poule. Ben, c'est ce qui va se passer. Et puis, monsieur H va dormir tranquillement, il va dégriser, et puis, le lendemain matin, il est reparti tout de frais vêtu sur son petit fauteuil. Monsieur H va mourir quelques mois après. Et donc, cette histoire m'a beaucoup marqué. Et en fait, voilà, il est arrivé avec une histoire et la gastro-entérite, c'était simplement un bon prétexte. Et cet homme arrivait au bout de sa vie. Et je trouve qu'il est intéressant dans ce qu'il l'invective de enlève ta blouse. Enlève ta blouse, ça veut dire d'abord tu vas enlever tes défenses, enlever tes a priori, enlever tes préjugés, et tu vas te libérer de tout ça et tu vas vraiment m'écouter. Le gros problème à l'heure actuelle, c'est que je crois qu'on n'écoute pas assez les patients. Et on n'utilise pas assez, j'aime pas le mot, mais c'est une technique qui s'est présentée comme telle, qui s'appelle la médecine narrative, c'est-à-dire qu'on écoute ce que le patient dit, on va le laisser parler. Il y a une étude fameuse dans les années 70 qui avait montré que un médecin coupe la parole de son patient dès la première minute, dès les premières secondes de la première minute. Il va le faire 3 fois. Parce que ce qui veut dire que le médecin n'écoute pas son patient, mais n'a qu'un seul objectif, c'est de le faire passer par ses propres fourches codines, en fonction de ses propres préjugés, en fonction des attentes de son institution. Donc je crois qu'il est intéressant, quand on enlève sa blouse, de pouvoir se la fermer pour pouvoir entendre ce que le malade... à dire, et le malade vous raconte son histoire, vous raconte sa vérité, et son histoire est toujours hiérarchisée en fonction de ses préoccupations, en fonction de ses angoisses, en fonction de sa douleur et tout ça. Et à la fin de son discours, il vous a donné 80% du diagnostic, il vous a donné la clé pour rentrer en contact avec lui. Enlever sa blouse, ça veut dire se débarrasser de son savoir pour pouvoir faire connaissance du patient. Et donc je trouve qu'il est très important de jouer avec ces deux mots du savoir et de la connaissance. Le médecin, il est fort de son savoir, scientifico-technique, tout ce que vous voudrez. Le malade, il ne sait rien de tout ça. S'il regarde Internet, il en sait encore moins. Voilà, mais il a une connaissance parfaitement intime de tous les symptômes de toute sa maladie. Et c'est donc ces deux verbes qu'il va falloir faire conjuguer pendant ce moment de consultation, c'est ce savoir et cette connaissance. Et j'insisterai là-dessus parce que il faut faire jouer savoir et connaissance. Et j'insiste sur le mot « et ». D'accord? C'est la mise en relation. Ce n'est pas un « ou », ce n'est pas le savoir ou la connaissance, ce n'est pas exclusif, ça ne répond pas à un algorithme, c'est de remettre les choses ensemble, les unes avec les autres, et les mettre en dialogue. Enlever sa blouse, ça veut dire qu'on va mettre en dialogue deux libertés. Monsieur H, complètement aviné, a une liberté, il tient à la défendre, et il sent que sa dignité est en train de lui filer entre les pattes, et ce qu'il demande est un sursaut de dignité, et je crois qu'il faut l'entendre. Donc, c'est la mise en relation de deux libertés et donc de deux responsabilités. Le patient, le malade, a une responsabilité vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa famille, et il doit être en mesure de pouvoir l'exercer. Et donc, je crois qu'il est très important dans le soin de donner toute cette dimension anthropologique du soin. Et je crains qu'à l'heure actuelle, dans le système de soins que nous avons à l'heure actuelle, très hospitalo-centré, la technique ne prenne le pas sur la dimension anthropologique du soin. Et la technique, elle est diverse. Elle est technico-médicale, mais aussi, il y a toutes les autres techniques qui viennent se rajouter là-dessus, qui sont le management, les finances, la justice, la politique, et tout ça vous tombe dessus, et il faut faire avec. Et enlève ta blouse, ça veut dire qu'il faut faire un peu abstraction de tout ça, pour être ajusté à la connaissance que le patient a de l'état dans lequel il est. Et cette dimension humaine me paraît extrêmement importante. Pour conclure, si j'ai encore 5 minutes, l'histoire de Madame C. Madame C, nous sommes vendredi soir, il est 6h du soir. En plein hiver, il y a les agences de la Lariboisière, ça ronfle, il y a du monde, et je dois prendre ma garde. Et je vois que Madame C est là. Et Madame C, c'est une dame âgée qui a dépassé les 90 ans, qui porteuse d'une séquelle d'accident vasculaire cérébral qui fait qu'elle fait des fausses routes régulièrement. Madame C a 2 fils qui sont absolument charmants et qui s'occupent énormément de leur mère, qui est maintenue à domicile, et ils font des pieds et des mains pour pouvoir la maintenir à domicile. Mais il n'empêche qu'elle fait ses fausses routes. Et là, elle vient de façon régulière aux urgences, et là je la vois, et je suis extrêmement frappé, elle a vraiment descendu plusieurs marches, voire plusieurs étages. Et donc je m'inquiète de savoir si les fils sont là. On m'annonce que les fils doivent arriver, les fils arrivent, et je leur dis, voilà, il va falloir qu'on discute sérieusement sur la suite des soins à donner à votre mère, savoir ce qu'il faut faire, parce que là, je ne pense pas qu'on va pouvoir aller très loin, on va aller sur les soins médicaux au maximum, mais on ne pourra pas aller jusqu'à la réanimation, c'est pas possible. Gros silence, très opposant, pour pas dire moins, et ils me disent, mais non, mais pas du tout, vous avez rien compris, il faut, vous avez des services de réanimation à la Lariboisière, vous en avez 2, donc vous allez trouver une place pour notre mère, et puis s'il faut aller au tube, on va au tube. Je leur dis, écoutez, moi je pense que ça serait ma mère, je ne le ferai pas, il faudrait trouver une autre solution pour pouvoir l'accompagner. Le ton monte beaucoup, et je leur dis, bon écoutez, réfléchissez, je reviens dans une demi-heure, je prends les informations pour la garde, et je reviens vous voir. Une demi-heure après, je reviens les voir, toujours le même discours. Et ils ont appelé tous leurs copains réanimateurs de la Terre, les 2 fils sont cardiologues. Et je leur dis, écoutez, je suis désolé, mais si vous voulez appeler le rabbin, c'est tout de suite maintenant. On peut faire les choses tranquillement en présence du rabbin. Et là, grand silence. Et ses fils se sont dit, mais... Eh ben oui, d'accord. Et donc, le fait de pouvoir se rendre compte qu'ils allaient à l'hôpital, dans un service d'urgence qui bénéficie d'une entropie majeure, pouvoir organiser la récitation du Kaddish, tout ce qu'ils devaient faire, et accompagner leur mère dans leurs derniers instants. Je leur dis, voilà, on va l'installer dans une chambre, vous allez vous installer avec le rabbin, vous allez pouvoir faire signe aux autres membres de votre famille. C'est ce qui s'est fait. Le rabbin était là un quart d'heure après. Hein. Ça se trouve, il était derrière la porte, je sais pas. Et il était là. Et donc, les choses se sont organisées comme ça. Et Madame C est partie 2 heures après. Et les deux cardiologues, les deux fils, nous ont dit merci avec un grand sourire aux lèvres parce que, en fait, leur grande angoisse, c'était de ne pas pouvoir répondre à leurs obligations religieuses et d'office vis-à-vis de leur mère. Et donc, il fallait repousser les choses plus loin. Donc, le soin, il n'a pas été médical du tout. Il était simplement humain. Donc, on enlève sa blouse et puis on se met au niveau de la personne et de la famille que nous prenons en charge. Voilà ce que j'avais à vous dire.
Merci. Merci, Bertrand Galichon, de cette première intervention. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pourrez lire l'article qu'il a écrit dans un numéro de la revue Études qui est en vente à la sortie. Permettez-moi ce petite incise. Je laisse la parole à Bruno Sainteau, qui est aussi un autre auteur de la revue Études dans un autre numéro, aussi disponible, pour une intervention peut-être sur un ouvrant une dimension peut-être plus spirituelle, même si l'intervention de Bertrand Galichon avait déjà, vous l'avez senti, une dimension spirituelle marquée.
Merci beaucoup. J'ai vu le sourire de Bertrand et je pense que disqualifier la dimension spirituelle du soin chez lui, évidemment, va éveiller quelques remarques. J'ai commencé comme lui à m'interroger sur le titre qui était proposé, Prendre soin, le retour du Caire, avec point d'interrogation ou sans point d'interrogation. Et ce titre a quelque chose d'étonnant. Le soin aurait-il donc disparu, qu'il faille le rappeler, qu'il fasse retour, ou bien faudrait-il estimer qu'il devrait faire retour? Il n'est pas là, mais qu'il devrait faire retour. Alors, en guise d'introduction, j'ai deux constats à faire, deux remarques, et qui ouvriront ensuite deux parties. Le soin n'a pas disparu, les soignants ont continué à soigner, mais il me semble qu'une des nouveautés, ça a été que le soin qui était invisible en temps ordinaire s'est mis à être visible. Nous avons pris conscience de quelque chose que nous avions oublié. Nous sommes mis en fait à voir ce que nous ne voyons plus. Nous sommes mis à comprendre ce que nous n'avions pas suffisamment compris, à savoir que nos vies fragiles et vulnérables sont possibles, elles sont possibles, et elles peuvent rester humaines malgré les menaces pour nos vies, et la menace n'a pas disparu, nous avons tous le masque, sauf moi quand je parle, mais voilà, nous avons tous le masque. Quand nos vies sont exposées, menacées, pourquoi? Parce que des personnes prennent soin des autres, et prennent soin aussi des institutions et du monde commun dans lequel nous vivons. Et de là, une très grande extension, on pourrait dire, du domaine du soin que nous avons constaté pendant la pandémie. Puisqu'on a parlé du soin de la santé, donc le soin assuré par les médecins, comme le docteur Galichon, mais le soin assuré aussi par les infirmières, qui de nouveau ont été plus visibles, avec les revendications aussi qui étaient attenantes à leur visibilité, temps de travail, salaire, les aides-soignants et soignantes, les agents de nettoyage, et puis aussi tous les gestionnaires de la santé, les administratifs, ceux qui prennent soin administrativement des établissements, donc des institutions de santé. Puis bien sûr le soin médico-social, le soin social, le soutien à toutes les personnes délaissées, distribution de repas, prise en compte des personnes dans la rue. D'une nouvelle manière aussi, nous avons pris conscience du soin parental, c'est-à-dire que pour bien vivre, les parents en fait prennent beaucoup soin, ils prennent beaucoup de temps. Le soin parental sans lequel nous ne grandissons pas, nous ne pouvons apprendre des choses. Autre révélation encore, ce qui est apparu, le soin de l'alimentation. Tout à coup, on se met à se rendre compte que finalement, il y a des agriculteurs, il y a des maraîchers, et puis il faut transporter la nourriture puisque nous sommes en ville, et puis il y a aussi des caissiers, des caissières qui sont exposés. En fait, toutes ces personnes prennent soin de nos vies, soin de l'alimentation. Le soin de l'espace commun, il y a des gens qui ramassent les poubelles, puis on est bien content qu'ils continuent à passer, qu'ils soient pas justement confinés. Les personnes qui entretiennent les équipements. Et puis aussi d'autres dimensions du soin, par exemple le soin culturel. Je suis allé regarder une petite vidéo tout à fait étonnante. Le Boléro de Ravel, joué par l'Orchestre National de France, où l'on voit sur la vidéo 50 musiciens de leur côté, en train de jouer chacun de leur côté, et puis tout ça est assemblé, et ça donne quoi? Ça donne plus de 3 millions de vues, n'est-ce pas? Pourquoi 3 millions de vues? Eh bien, nous avons besoin aussi du soin culturel pendant ces périodes-là, où nous sommes confinés, nous vivons aussi de ça. Donc, on prend soin également comme ça. Dernière chose, le soin écologique. On n'a pas cessé de se poser la question de ce que nous aurions mal fait, de ce que nous aurions négligé, notamment du soin des animaux et de l'environnement, pour que le virus se propage, provienne peut-être d'une souche animale. La question est en débat, voilà. Donc, le soin écologique, et puis bien sûr le soin politique, qui a été au centre du débat. Qui prend les décisions? Qui peut assurer le prendre soin du corps politique, les grandes décisions? Donc, on pourrait se dire, voilà une extension du domaine du soin, mais si le soin prend une si grande, une acception aussi large, est-ce que c'est encore un concept opérationnel? Bien, le deuxième point de mon introduction, c'est de dire, effectivement, il est opérationnel, et peut-être qu'une nouveauté, c'est que le soin est redevenu un concept politique. Voilà, je pourrais dire ça comme ça. Et donc, le prendre soin est redevenu un concept politique. Dans l'introduction tout à l'heure, il était souligné la tentative en 2010 par Martine Aubry et quelques autres personnes, à l'instigation notamment de Fabienne Brugère, qui aurait dû être là ce soir et qui est malade. Voilà, j'espère que des gens prennent soin d'elle. Voilà. Donc, à l'instigation de Fabienne Brugère, la volonté de développer une politique du soin. Est-ce que le soin peut être l'objet d'un projet politique pour tous? Et elle avait donné sa définition du CARE. Qu'est-ce que c'est qu'une société du CARE? C'est une société de l'attention aux autres. Je reviendrai plusieurs fois sur le thème de l'attention, qui est une dimension première, on pourrait dire, du soin. Mais il ne s'agit pas simplement que chacun prenne soin des autres, cela implique aussi que l'État prenne soin de chacun. 2010, Martine Aubry. La tentative de donner une existence politique aux soins, de faire du soin un véritable programme politique, a été, je ne sais pas, peut-être les plus anciens s'en souviennent, en 2010, un fiasco complet. Aussitôt que ce programme a été annoncé, il y a eu des dénonciations à la fois à gauche, à droite, et on peut dire, cette volonté de développer une politique du soin a été rapidement arrêtée. Avec des arguments, on pourrait dire, de dénigrement qui vise à ridiculiser. Bon, tout ça, c'est un galimatière de bons sentiments. Un animateur disait, le CARE, c'est la nunucherie en politique, ou une politique de bisounours. Et dès qu'on parle de soins, c'est pas sérieux, quoi. On peut pas assurer, en fait, une existence politique avec ce concept de soins. Bon, première manière de ridiculiser le soin. Et puis, l'autre argument classique, qui a déjà été évoqué par le docteur Galichon, mais en fait, si vous faites ça, vous allez faire de l'assistanat social. Dire qu'on prend soin des gens, c'était synonyme d'assistanat social. Alors évidemment, critique forte, mais prendre soin n'est pas équivalent, nous y reviendrons, à assister des personnes incapables de prendre part elles-mêmes aux soins. Et puis, un dernier argument, c'était l'argument contre l'autonomie. En fait, si vous dites ça, c'est que vous n'allez pas respecter l'autonomie des gens. Promouvoir comme panacée une société du soin est une erreur profonde, disait un ministre. Car l'individu n'est ni malade, ni en demande de soins. Oui, l'individu n'est ni malade, ni en demande de soins. Donc, bon. Alors, cette existence d'une politique du soin a été complètement récusée en 2010, et puis, une résurgence, on pourrait dire, d'une politique du soin, dont attestent un certain nombre d'articles, non seulement les articles de la très bonne revue Études, mais d'autres articles dans Le Monde, notamment, par Claire Legros, Le souci de l'autre, virgule, un retour de l'éthique du care. Avec aussi, pour la première fois en politique, le vocabulaire du prendre soin d'autrui et de prendre soin les uns des autres par le président Macron, je vous rappelle ses propos. Et les vertus qui aujourd'hui nous permettent de tenir seront celles qui nous aideront à bâtir l'avenir, notre solidarité, notre confiance, notre volonté. Alors, prenez soin de vous, prenons soin les uns des autres, nous tiendrons, vive la République. Avec l'association de tenir dans l'adversité en se tenant mutuellement dans le prendre soin. Est-ce que ça peut faire l'objet d'un programme politique? Est-ce que c'est une simple exhortation, des beaux mots, ou ça peut faire un programme politique? Alors, je donne quelques éléments sur l'éthique du care. Dites-moi combien de temps il me reste. Bon, très bien. Donc, quelques éléments sur l'éthique du care. Pourquoi, en fait, nous sommes allés chercher un mot, nous avons emprunté un mot aux Anglais, alors que nous avons, comme disait le docteur Galichon, toutes les ressources finalement en France pour penser à la fois une philosophie du soin, une éthique du soin et une politique du soin. Ça a été souligné tout à l'heure dans l'introduction, parce qu'il y a eu toute une réflexion sur le soin, d'abord du point de vue de l'éthique, et puis ensuite du point de vue de la politique. Comment le mot peut-il être employé en politique ? Eh bien, pour être employé en politique, il faut que le terme « soin » ne soit pas limité simplement aux soignants, au sens traditionnel, les médecins, les infirmières, etc. Alors, cette définition, elle a été donnée par Johan Tronto, donc c'est une politologue, donc elle a pensé la question du soin en termes politiques. Pour commencer à faire ça, il faut donner une acception du soin, une définition du soin très large. Je la rappelle, elle était dite tout à l'heure. Le care, donc le soin, est considéré comme une activité générique, c'est-à-dire qu'il va s'étendre à beaucoup de choses, une activité générique, qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde. Tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer, réparer. Oui, il y a maintenir, perpétuer et il y a réparer. Il y a toujours quelque chose à réparer dans ce monde. Dans notre monde, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il y a toujours quelque chose à maintenir parce que ça peut se déliter comme le corps social et comme notre corps singulier. Alors, tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte, pourquoi c'est fait ? De sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. De sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Pourquoi il nous faut maintenir le monde ? Pourquoi le réparer ? Le monde commun, nos vies ? Pour y vivre aussi bien que possible. Aussi bien que possible. Et ce monde comprend nos corps, nous-mêmes, notre environnement, tous les éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Alors vous voyez, là, il y a une acception du soin qui est extrêmement générale, avec aussi la conscience que tout est lié, comme dirait le pape François, n'est-ce pas, tout est lié, à savoir tous les éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Parce que pour soutenir la vie, il faut des médecins, des infirmières, il faut des gens qui nous donnent à manger, il faut des gens qui soient dans la culture, il faut des gens qui prennent soin des institutions, il faut qu'il y ait du politique, il faut qu'il y ait du social, etc. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça qui me paraît important. D'abord, une définition très large, on pourrait dire, du soin, de telle sorte que nous sommes tous concernés. Ça, c'est extrêmement important. On pourrait dire le soin, c'est réservé à un certain nombre, c'est pas nous. Ah ben non. À partir du moment où on comprend tout ce que il faut faire pour maintenir, réparer le monde, nous sommes tous concernés, donc nous avons tous, en quelque sorte, à prendre soin. Ça, c'est le premier élément, l'extension de la définition. Deuxième élément, c'est qu'il me semble qu'il y a derrière, en tout cas elle le souligne, une conception très large, on pourrait dire élargie, du soin qui nous donne à comprendre ce qu'il faut mobiliser en nous pour bien soigner. Le soin n'est pas simplement quelque chose que nous faisons. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte avant de faire, avant de pratiquer le soin, comme le fait le docteur Galichon. Alors, je souligne quelques éléments, les dimensions qui sont à prendre en compte pour justement arriver à l'étape où on prend soin, effectivement, le docteur, voilà, qui va faire la piqûre, qui va prendre soin, effectivement. Premièrement, et ça va nous intéresser beaucoup aussi pour une politique du soin, la première dimension à prendre en compte, c'est la dimension perceptive. Perceptive, c'est-à-dire se rendre sensible à, être éveillé à, être attentif à. Pour soigner, il faut commencer à ouvrir. Il faut commencer à développer sa perception. Il faut développer une qualité d'attention, on peut dire à soi, aux autres, aux vivants, au monde. Donc rien ne se fait sans cette dimension perceptive, cette qualité d'attention qui est l'ouverture finalement à autrui, au monde, voilà. À soi, à autrui et au monde. Voilà. Dimension perceptive. Ensuite, il y a une dimension affective. Être affecté par, se soucier de, être touché par, être mobilisé intérieurement par. Il y a toujours une dimension affective. Elle est bien sûr à réguler, mais elle est là. C'est-à-dire, je suis effectivement préoccupé. L'inverse, c'est I don't care, j'en ai rien à faire, je prends pas en compte. Donc là, je suis préoccupé au sens mobilisé intérieurement, touché par. Ensuite, la dimension éthique, eh bien, qui consiste à comprendre le soin comme une véritable responsabilité. Comprendre et vivre le soin comme une obligation, une responsabilité, c'est à moi de. Hein. Et puis, la préoccupation de s'ajuster, ça a été dit tout à l'heure, à l'autonomie de l'autre. Ça aussi, c'est une responsabilité éthique. Pas simplement la responsabilité du soin, mais s'ajuster à l'autonomie de l'autre, à sa manière de réagir au soin et susciter sa participation. Et ensuite, il y a la dimension active. Voilà. Se préoccuper concrètement de. Alors maintenant, s'il me reste 5 minutes, je vais dire en quoi quelques pistes. Très bien. Quelques pistes pour montrer comment ça peut être actuel pour nous, en fait. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de toutes ces réflexions sur le soin que nous ne faisons ici que d'esquisser, mais il y a de très bonnes références, le petit notamment le petit essentiel d'étude, voilà, prendre soin, qui me permet de rendre hommage au père Patrick Verspirène qui a coordonné ce numéro-là. Que pouvons-nous en apprendre, en fait? Eh bien, il me semble que nous pouvons apprendre de cela, de ces réflexions sur les éthiques du care, et puis en France, des philosophies du soin, à tenir compte de toutes ces dimensions que je n'ai fait qu'esquisser, dimensions perceptives, affectives, éthiques, et puis pratiques, actives, voilà. Notamment, en prenant bien conscience que tout commence par une certaine qualité d'attention à, et donc une qualité d'ouverture à. Être éveillé à, être éveillé à ce qui arrive à soi-même, comment je suis affecté finalement par la crise actuelle, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe en autrui, être éveillé à. Il me semble que cette culture de l'éveil à, de l'attention à ce qui arrive à moi, aux autres vivants, au monde, est essentielle pour la démarche de soins, y compris pour le soin des autres vivants et du soin du monde commun, donc pour les préoccupations écologiques. Ça commence par une ouverture à, une attention à. Sans cela, on pourrait se contenter des « il faut que », « vous devez ». Mais le devoir, à mon avis, il est sans prise sur nous si nous ne cultivons pas cette dimension de l'attention. On vous dira « il faut que ». Oui, mais moi je vois pas. Voilà. Ou moi je ne perçois pas, je ne suis pas affecté par... Ça me fait rien, ça ne me touche pas. Voilà. Donc, la dimension perceptive, et puis la dimension, on pourrait dire aussi, affective ou pathique, je pâtis de ce qui arrive à l'autre. Alors, pour ça, j'ai trouvé un très bel article dans Le Monde d'aujourd'hui sur les infirmiers, infirmières qui sont en formation. Voilà. L'étonnant attrait pour les études d'infirmiers. Alors, c'est une petite enquête, un bon article dans Le Monde d'aujourd'hui. Et... l'article montre que la mobilisation des infirmiers et infirmières n'a pas disparu, qu'il y a toujours beaucoup qui veulent faire cela. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont saisis par ce qui arrive à autrui. C'est banal, mais en fait, c'est le moteur puissant. Voilà. Il cite l'article, une citation d'infirmiers et infirmières en formation. « En arrivant à l'hôpital, je suis tombé des nues. Le sous-effectif, les grèves, la paye ridicule en tant qu'étudiant, forcément, ça m'a fait réfléchir. Ces conditions me posent un très gros souci. Mais ce métier, on le fait pour les patients. Et ça l'emporte sur tout le reste. Oui, renchérit un camarade, on ne choisit pas ça par hasard. Voilà. Pourquoi ? Ben, envers et tout, envers et contre tout, pourquoi ? Parce que ça vient du ventre, dit Noémie. Ils veulent aider l'autre, se sentir utile, prendre soin. Voilà. Oui. Donc ça n'a pas disparu, en fait, cette dimension d'être affecté par, et de prendre le fait d'être affecté par une, comme une responsabilité. Donc je me forme, j'apprends, infirmier, etc. Voilà. Donc, oui, c'est pas seulement un pathos, c'est un pathos lié à un ethos. Je suis touché par, et je prends les moyens d'eux pour prendre effectivement soin. Voilà. Deuxième chose. Prise de conscience pendant la crise sur la dimension du soin, c'est qu'il est des biens de santé qui ne doivent pas être soumis au marché financier. Bon. Le président Macron l'avait souligné dans son adresse aux Français le 12 mars 2020, mais il s'agit de vraiment de le prendre en compte. Ce que révèle, je cite, ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite sans condition de revenu, de parcours ou de profession de notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Alors, je pense que ça, c'est une véritable prise de conscience. C'est-à-dire qu'il y a des biens fondamentaux de santé qui doivent échapper à la logique du marché. Et ça, ça me paraît extrêmement important. Maintenant, lesquels ? Où on laisse toutes les entreprises privées se ruer sur le marché de la santé. Le corollaire, c'est qu'effectivement, comme il est dit tout à l'heure, alors faudrait pas opposer frontalement les gestionnaires et les soignants, mais on pourrait dire que les nombres, les chiffres ne font pas tout le domaine du soin. Bon. Autre prise de conscience, à mon sens, une culture de la participation. Le soin n'est pas un assistanat, voilà. Et on en a vu beaucoup d'exemples. Et on pourrait reprendre le slogan du monde du handicap, ne faites rien sans nous, pour nous, sans nous, ne faites rien pour nous, sans nous. Et peut-être que nous pourrions apprendre ça de manière un peu plus forte, voilà, pour une véritable politique du soin, une politique de la santé. Et puis, je finis, mais ça, ça renvoie à l'article d'étude, prendre en compte les ressources spirituelles du soin. Voilà. Il ne s'agit pas simplement d'avoir l'ambition politique de prendre soin de toutes les personnes, mais de prendre soin de toute la personne, de toutes ses dimensions, sans oublier la dimension spirituelle qui fait sa propre vie, la dimension du sens, des valeurs de sa propre vie, comme un appui, une ressource spirituelle pour le soin. Et puis, il me semble que dans les ressources spirituelles, et ça traverse les récits des soignants ici, dans l'article dans Le Monde, c'est que le soin, il est suscité aussi parce qu'il y a des gens qui racontent. Alors moi, quand j'entends le docteur Galichon raconter ses histoires, des fois j'ai envie d'être là, quoi. Mais en fait, nous prenons soin parce qu'il y a des gens qui racontent ce qu'ils vivent. Et c'est comme ça que nous nourrissons un imaginaire du soin ou de la mobilisation dans le soin. C'est ce que font les paraboles. Et pour terminer, si vous lisez les deux textes qui viennent de paraître, celui de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi qui s'intitule Samaritanus Bonus, le bon samaritain, qui porte sur les questions de fin de vie, et puis la dernière encyclique sur la fraternité, la parabole du bon samaritain joue un rôle central. Pourquoi ? Parce qu'elle peut s'adresser aussi bien aux croyants qu'aux non-croyants, et elle développe un imaginaire du soin. On voit les gens passer, on voit ceux qui ne voient pas, on voit ceux qui ne sont pas touchés, qui passent devant, etc. Donc il me semble que parmi les ressources du soin, et ce que nous apprend la pandémie, ce que peut nous apprendre aussi les éthiques du soin aujourd'hui, c'est que nous sommes soutenus dans le soin, que nous sommes mobilisés dans le soin, parce qu'il y a des gens qui racontent ce qu'ils ont vécu. Moi j'ai été touché par exemple par les histoires racontées autour des jésuites qui sont morts dans les EHPAD chez nous, comment ça se passait, comment les gens étaient affectés, etc. Donc en fait nous sommes éveillés, nous sommes soutenus aussi par les récits de soins. Donc je pense qu'il faut accorder une grande importance aux récits, mais également dans nos trésors spirituels, aux paraboles qui mobilisent aussi les ressources de notre capacité à prendre soin. Merci.
Merci Bruno. Dans quelques minutes, des micros circuleront pour un échange avec la salle. J'aimerais peut-être revenir sur quelques points, en particulier une sorte de paradoxe ou peut-être d'abord de contresens lorsque le soin était dénigré sous prétexte d'assistanat. Or, à vous entendre l'un et l'autre, essentiellement c'est le contraire, c'est-à-dire le soin n'est pas du tout une assistance qui transforme le patient en objet dont on va, mais au contraire vise à le rendre davantage sujet libre. Il y a dans le soin quelque chose de l'ordre d'un empowerment, comme on dit, d'une capacitation, d'un relèvement, ce qui suppose évidemment de la part de celui qui prend soin, comme disait Bruno Sainteau, une ouverture, l'ouverture de la blouse, une image assez parlante de Bertrand Galichon, autrement dit une vulnérabilité, tout une série de mots, d'images se relaient du même paradoxe. On peut revenir peut-être à quelques instants sur cet aspect justement d'incapacitation, c'est-à-dire de comment rendre finalement le patient, le mot patient du reste est intéressant, le patient c'est passif, comment le rendre actant, comment rendre le patient actant?
Alors, première réflexion, est-ce que c'est l'assistanat que de soigner l'autre? Peut-être. Mais il y a une fonction importante du soin, c'est que quand je soigne l'autre, je me soigne. Et ça, c'est une dimension importante, une dimension réflexive importante du soin. Quand je prends soin de l'autre, je prends soin de moi. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour revenir au patient, je fais vraiment le distinguo entre le malade qui pense maladie, qui vit maladie, qui boit maladie, qui se nourrit maladie, qui est complètement dedans, quoi. Et il n'arrive pas du tout à sortir de là, et il a un esprit complètement obéré par sa maladie. Vous avez les grands syndromes psychiatriques qui décrivent parfaitement la chose. Mais quand vous avez une personne qui a un grand syndrome douloureux pour une raison X ou Y, toute son attention est portée par la douleur. Et donc, il est envahi. Et donc, sa vie est envahie par sa maladie. Et donc, l'objet du soin, c'est de pouvoir le sortir de là, d'accord, et qu'il puisse inscrire cet événement important dans sa biographie, d'accord. Il doit pouvoir en faire autre chose. Il doit pouvoir mettre cet événement maladie à une distance respectable pour pouvoir respirer. Et le patient, c'est lui. Le malade, il est encore enfermé dans sa maladie. Et le patient permet de retrouver sa participation au bien commun. Et de changer le regard des autres qui lui sont le regard des autres que les autres peuvent lui porter. Et on devient patient à cette hauteur-là.
Merci Bruno, peut-être en deux minutes.
Un petit mot, oui. Un des mérites des éthiques du care, ou des philosophies du soin, c'est de prendre à la fois en compte la vulnérabilité des personnes. La vulnérabilité n'est pas forcément la fragilité. Le fait d'être pouvoir être affecté par quelque chose. Voilà. Donc de prendre en compte nos vulnérabilités et nos fragilités, c'est le premier point. Le deuxième, les prendre en même temps que nos capacités, ou les Anglais parlaient des capabilities, des capacités, c'est-à-dire aller chercher à chaque fois chez l'autre qui est atteint la part en lui où il peut prendre part à l'acte de soin, être acteur d'eux. Donc on ne peut pas mettre du coup les éthiques du care sur le versant uniquement d'une sorte d'insistance sur la vulnérabilité humaine, parce que elles tiennent ensemble la prise en compte de nos vulnérabilités et la prise en compte de nos capacités ou capabilités. Et qu'un des objectifs du soin, c'est justement d'aller chercher chez l'autre de quoi il est capable au point où il en est. De le voir, de le prendre en compte et de le mettre en œuvre. Alors, pour dire aussi comment la crise, enfin, en tout cas, je l'ai constaté dans un certain nombre d'établissements, puisque je connais surtout bien les établissements de Saint-Jean-de-Dieu, donc des frères de Saint-Jean-de-Dieu, la crise a été notamment l'occasion de mesurer des fragilités importantes, des vulnérabilités, mais aussi des capacités, des ressources des soignants et des ressources des personnes accueillies, notamment dans les EHPAD, les centres d'accueil, etc. En fait, la crise a réveillé une sorte d'inventivité parce que les carcans ou la routine, je ne sais pas qu'était là avant, tout a explosé. Et en fait, on s'est mis à aller chercher chez les gens, en préparant des repas, en faisant des petites vidéos. Enfin, il y a une créativité, moi, qui m'a beaucoup frappé, dans quelques établissements que je connais, peut-être pas partout. Mais du coup, d'inventivité, comment on peut vivre ensemble lorsqu'on est bloqué, on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire. Eh bien, on peut encore faire plein de choses et on peut vivre différemment d'avant. Donc moi, je suis frappé par ça, par la créativité d'un certain nombre de soignants et de personnes aussi soignées, accueillies pendant cette crise-là. Et les soignants avec qui je discutais, ils disaient bah, « on espère que ça va, on en prendra des leçons, quoi, que ça pourra continuer. Si la crise a révélé ça, est-ce qu'on pourra continuer comme ça, à être inventif, faire du soin, non pas l'occasion d'un assistanat, mais d'un partenariat dans le soin pour... Pourquoi ? Ben pour vivre mieux ensemble avec nos fragilités.
Merci Bruno Sainteau, merci également au docteur Galichon pour à la fois ses éclaircissements, ses témoignages, et aussi pour nous avoir montré comment ce débat sur le care, le soin, né il y a une dizaine d'années, est toujours inscrit dans l'actualité et ô combien, puisque la crise dite du ou de la Covid n'a cessé d'en souligner la pertinence. Voilà, un grand merci à tous les deux. C'est parfait. Alors, voilà, c'est parfait, nous sommes parfaitement dans les temps pour notre diffusion radiophonique. Puisque ce débat sera retransmis sur les antennes de RCF normalement dans 2 semaines. Alors, nous allons passer aux questions de la salle avec un petit problème sanitaire et technique. C'est que normalement, on ne fait pas passer de micro. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense la faculté. J'ai une idée, Franck. J'ai des lingettes. On pourrait peut-être... prendre des lingettes pour nettoyer le micro.
Voilà, chaque fois.
Alors, selon la bonne habitude que m'a enseigné François Hevé, donc nous allons prendre les questions par 3. C'est bien ça ?
C'est bien ça.
Qui se lance ? Voilà, là-bas.
Alors, non, c'est mieux avec un micro, quitte à ce qu'on le tienne pour vous, mais...
EHPAD, parce que je ne suis pas du tout d'avis du Père Sainteau, parce que j'ai des amis dans une EHPAD qui, pendant tout le confinement, ont été tellement bloqués que même le téléphone ne marchait plus. Alors ça, c'était vraiment dramatique. On ne sortait pas de sa chambre. Les repas étaient dans la chambre. On ne voyait personne. Et c'est à peine si on pouvait téléphoner. Ah non, ça a été absolument épouvantable. La deuxième chose, c'est qu'on a quand même l'impression que l'État et le CARE sont deux choses un peu différentes parce qu'ils nous donnent tellement d'obligations qu'on ne se sent plus libre. Et je pense qu'il y a, d'une certaine mesure, une certaine atteinte à la liberté dans les grandes obligations qu'ils nous donnent. Voilà.
Merci. Merci. Alors, il y a déjà 2 questions, là, en fait. Une troisième, tout au fond.
Une question, c'est une demande de précision à Bertrand Galichon. Quand il dit « quand je soigne l'autre, je me soigne », est-ce qu'il pourrait nous préciser un peu ce que ça signifie ?
Merci. Alors, il y avait 2 questions pour Bruno Sainteau sur... les EHPAD et sur l'État et le cœur et les obligations que cela implique ou suppose. Et puis ensuite, la parole sera au docteur Galichon.
Oui, vous avez tout à fait raison. J'ai donné un exemple d'une situation que j'ai estimée bonne, où il y avait une bonne réaction, mais il y en a plein d'autres qui sont négatives. Donc vous avez raison. Il y a plein d'exemples où ça a été dramatique, on n'a pas pu accompagner les personnes, elles ont été isolées, ça a été dramatique, vous avez tout à fait raison. Alors, j'ai préféré mettre l'accent sur ce qu'on avait trouvé de bon aussi, pour ne pas être désespéré du soin. Voilà, où on n'y arrive pas, où on ne sait pas faire. Mais pour mettre l'accent sur ce qu'un certain nombre d'équipes ont su faire. Alors ça me paraît important aujourd'hui aussi, parce qu'on pourrait être complètement, tétanisé par nos incapacités à nos manques, on n'a pas su faire, on n'a pas su accompagner nos personnes âgées, les personnes de nos familles, on n'a pas pu, et on pourrait être complètement tétanisé par ça, en être tellement désolé que justement ça paralyserait nos forces. Donc moi j'ai mis à dessein l'accent sur ce qui a bien marché. Je ne nie pas, voilà. Mais là aussi, dans la période présente, il me semble que c'est important de mettre l'accent sur ce qu'un certain nombre d'équipes ont inventé pour faire face à une situation très difficile. Bon, c'est un choix. Ouais. Pour le deuxième point, le CAIR nous donne des obligations, il nous donne tellement d'obligations. Je vous rappelle, alors, il faudrait faire la distinction entre les éthiques du CAIR et les politiques du CAIR. Les éthiques du CAIR, elles réfléchissent sur une obligation qui est une obligation morale. Tu dois, ou on devrait faire ceci. L'éthique du CAIR traduite en termes politiques peut se traduire juridiquement par des obligations d'eux. Mais dans ces cas-là, et ça renvoie à ce que j'ai dit sur la dimension perceptive, affective et éthique, c'est que, bien sûr, on a beaucoup de contraintes. Peut-être qu'on va en avoir toujours plus. Si nous voulons prendre en compte aussi un concept élargi de santé, en tenant compte pas simplement de nos vies, mais des autres vivants et de l'environnement, de la planète qui nous héberge, nous allons avoir de plus en plus de contraintes. Donc, soit nous les percevons comme quelque chose d'inadmissible qui entame nos libertés, soit nous cherchons dans ces occasions-là ce qui peut être juste moralement, en étant éveillé aux besoins d'autrui, aux souffrances d'autrui, et que ça devienne une obligation morale en nous, non par contrainte, mais, comme dirait le bon vieux Kant, par autonomie de la personne, n'est-ce pas ? Voilà. C'est une obligation qu'on se fait à soi-même. Alors vous allez me dire, il faut faire la part des choses entre les pressions, qui vont être des pressions politiques, juridiques, et la dimension d'obligation éthique. Mais là aussi, moi je voudrais insister sur le fait que rien ne peut être fait uniquement par la contrainte étatique, politique, juridique. Il faut que nous trouvions en nous des ressources éthiques pour nous sentir obligés d'eux. Mais pour nous-mêmes, c'est quelque chose, c'est pas une fatalité, c'est pas un poids qui nous viendrait de l'extérieur. C'est quelque chose qui s'impose à moi. On pourrait dire, comme dans la parabole du Mont Samaritain, personne lui a dit « tu devrais prendre soin comme ça ». Mais il a été touché par ce qui arrivait à autrui, et il a fait des choses. Donc, cette parabole est très belle parce qu'elle unifie la dimension perceptive, voir ce qui arrive à autrui, la dimension, on peut dire, affective ou pathique, j'ai été affecté par ce qui arrive à cette personne au bord de la route, la dimension éthique, la responsabilité, voilà. Je me dois de faire quelque chose, et puis la dimension pratique, il le conduit dans une auberge. Alors je pense qu'il ne faut jamais oublier ça. Donc peut-être que nous allons être de plus en plus contraints par des tas de directives, oui, mais ce à quoi nous sommes invités, c'est de les habiter de l'intérieur, de nous sentir obligés intérieurement. Et il n'y a rien qui peut remplacer ça. Aucune contrainte étatique. Sinon, nous allons trouver que c'est insupportable. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je peux comprendre à la fois. Je pense que nous allons être dans des contraintes beaucoup plus fortes. Mais ce qui s'impose à nous, c'est de pouvoir en habiter un certain nombre de l'intérieur. Donc juger ce qui est bon, mais de l'intérieur. Donc la distinction entre l'éthique, le politique et le juridique.
Alors, des précisions pour « je me soigne en soignant l'autre ». En fait, si je devais répondre à votre question, je prendrais, comment vous dire, pourquoi a-t-on choisi d'être médecin, d'être infirmier, a fortiori dans un service d'urgence, où tout passe à toute vitesse, voilà. Pourquoi on reste aussi longtemps? Et alors, vous avez plein de premières raisons, de prétextes, tout ce que vous voudrez. Et puis, au bout d'un moment, vous allez plus avant, et vous vous rendez compte que, en fait, en voulant aller soigner des gens extrêmement divers qui n'ont pas prévu d'être là 5 minutes avant, c'est que vous allez soigner votre capacité d'altérité, d'écoute de l'autre. Et alors l'autre, il se trouve qu'il a un petit A, mais quand même, il peut avoir un A majuscule. Et c'est à ce niveau-là que je me soigne en soignant l'autre, en soignant l'autre comme aussi aimable que moi aux yeux du Père. Il se trouve qu'aux urgences de la Riboisière, on voit un tas de gueules cassées, plus ou moins avinées, droguées et tout ça, qui parlent pas français, qui sont d'une autre culture. Eh bien, Monsieur H, de tout à l'heure, il a la même dignité, il bénéficie du même amour que moi aux yeux du Père. Alors, comme disent mes enfants, ça calme, ça permet d'ajuster, mais ça permet aussi de, voilà, de se mettre à la hauteur de l'autre et de pouvoir se soigner. C'est à ce niveau-là que je dis que je me soigne en soignant l'autre. Je voudrais, excusez-moi si j'ai 5 minutes, de rebondir sur votre question de la liberté. Il y a une chose que nous vivons tous les jours aux urgences, c'est la mise en route de la loi Leonetti. Et la loi Leonetti, elle est vécue par les soignants comme une injonction de liberté. Je m'explique. C'est-à-dire qu'à un moment, on se rend compte que les soins curatifs, actifs, proactifs, ne servent plus à rien, et il faut passer à quelque chose de raisonnable. Et là, la loi nous décide un cadre pour exercer cette responsabilité, donc cette liberté. Et cette liberté, elle est exercée à plusieurs. Le médecin, enfin les médecins, parce qu'il doit y en avoir deux, les soignants, quels qu'ils soient, les étudiants, le patient et surtout sa famille. Et donc là, il y a un moment de liberté extrêmement fort, qui peut être extrêmement émouvant, qui va vous déplacer et qui est une injonction pour prendre vos responsabilités en toute liberté. Alors, vous parliez des EHPAD, je vous signale que maintenant le gouvernement, je crois que c'est d'aujourd'hui, veut que les dispositions qui soient prises dans les EHPAD répondent aux aspirations des résidents. Voilà.
Merci. Alors, pour deuxième salve de questions. Alors voilà, plusieurs mains se lèvent dans le fond, devant, au milieu.
Vous dites qu'il y a incompatibilité entre la notion de soins et la notion de coût financier. Est-ce que c'est bien vrai? J'ai l'impression aujourd'hui que si je veux me faire tester tous les jours de Covid, je peux le faire. Ça a quand même une conséquence de coût. Deuxième question. Aujourd'hui, on entend dire que les services d'urgence sont débordés et qu'on est en train de réfléchir à un moyen d'éviter que tout le monde aille aux urgences sans raison. Donc, c'est bien quelque chose, encore une fois, qui mélange le soin et l'aspect économique.
Merci. Alors, il y avait dans le fond, le professeur devant.
C'est une question pour le docteur Galichon. Je voulais savoir comment vous le vivez. Enfin, je ne sais pas dans quel quartier vous avez l'occasion de vous promener, mais il y a tellement de zones où, en fait, les gens portent pas du tout, ou à moitié, ou au quart, ou mal le masque, ou alors un masque bidon qui tombe ou qui est de mauvaise qualité. Et j'étais étonnée, là, je suis passée dans un quartier où il y avait une distribution de nourriture, pas loin de votre hôpital, et en fait... les personnes, certaines avaient des masques, d'autres pas, et étaient agglutinées. Donc, voilà, pour vous, quel message on pourrait faire passer plus souvent pour que les gens portent un vrai masque et correctement ou... Voilà.
Merci. Alors, devant, il y avait des mains qui s'est élevée par ici. Le relever la main.
Merci beaucoup. Oui, c'est une question qui est proche de la première question. Le père Saint-Eau, dit que la crise du Covid avait permis de mettre en évidence qu'un bien comme la santé ne pouvait pas être soumis à une logique de marché. Il me semble cette affirmation, on ne peut qu'y souscrire, mais le problème, à vrai dire, ça n'est pas véritablement celui-là, c'est celui du caractère c'est le caractère, par définition, limité de la ressource financière affectée à un certain nombre de grandes missions, l'éducation, la santé. Il y a en toute hypothèse la nécessité de trouver un équilibre, de prendre en compte la dimension gestionnaire. Alors c'est certainement très difficile. Moi, j'aimerais bien que le docteur Galichon nous dise un peu ce qu'il en pense, parce que on a le sentiment, on constate à la fois que la part du PIB qui est consacrée en France, à la santé, elle est tout à fait comparable à ce qu'il y a dans les pays, dans les grands pays. Et puis, à contrario, on a l'impression, notamment dans le domaine hospitalier, d'une extraordinaire contrainte financière.
Voilà, alors, plusieurs questions très différentes. Plusieurs questions, qui se répondent sur la question du coût, et puis une autre sur le fonctionnement des urgences, et puis la question peut-être commencer par celle du port du masque, ou de l'absence de port du masque, ou de distanciation dans certains quartiers.
Alors, port du masque. J'avoue que là, moi, j'ai pas du tout vu... j'ai pris la ligne 4 pour venir ici, pour descendre de la Riboisière. La ligne 4, à 6 heures du soir, elle est bondée. La ligne 4, il y a des gens de toute culture, de tous les âges, et tout le monde avait son masque sur le bout du nez. Dans notre quartier, effectivement, autour de la Riboisière, les rues qui sont directement adjacentes, la salle de shoot, de consommation à moindre risque, fait que la population est quand même assez désociabilisée, et donc les masques, eux, ont sauté en l'air. Bon. Ceci étant dit, je sais pas du tout, je crois que cette question du port du masque en milieu ouvert est une vraie question, parce que est-ce que vous êtes convaincu qu'il y a une densité de virus telle qu'il faille se protéger en permanence dans la rue? Je sais pas. D'accord, mais j'ai pas la bonne réponse. Hein, personne ne l'a, donc je pense qu'il faut faire avec ce qu'on veut, faire avec ce qu'on peut. Voilà. Donc, ce qu'il y a de gênant, c'est que des études, il y en a plein partout, et elles sont souvent contradictoires. Donc je sais pas du tout ce qu'il faut en penser. Déjà que des gens portent le masque plus ou moins bien, même de mauvaise qualité, ben c'est toujours autant de gouttelettes qui passent, qui restent prisonnières. Voilà. Mais je pense que ça va être encore un débat qu'on va avoir pendant plusieurs mois. Reste la question du service des urgences débordé. Alors là, excusez-moi, mais je vais être un peu iconoclaste. Il y a ce que la presse dit, et puis il y a ce qui est dans la vraie vie. D'accord ? Nous, les urgences de l'Herbeuzière, c'est les premières urgences de l'Île-de-France. Au jour d'aujourd'hui, à cette époque, on devrait normalement tourner à 280 admissions par jour. C'est les chiffres de l'année dernière à même époque. Et bien là, on arrive péniblement à 220-240 passages. Vous me dites, et la différence est quand même, vous avez l'impression que c'est ténu, mais en fait c'est extrêmement important. Il faut savoir aussi que dans les services d'urgence, il n'y a pas que des gens qui y viennent comme ça pour leur bon plaisir. Il y a pas mal de gens, et j'en ai fait l'expérience aujourd'hui, qui sont adressés par des médecins qui bottent en touche. D'accord ? Et là, j'ai eu une dizaine de patients qu'on a vus aujourd'hui adressés par les médecins, patentés, pour des motifs qui étaient complètement ridicules et qui montraient un défaut de formation. Si nous prenons la période précédente de l'été, où effectivement, février, mars, les services d'urgence ont été sollicités, puis les services de réanimation, les services de médecine interne, je vous assure qu'à partir du mois d'avril, les urgences de la Riboisière, et pendant 3 mois, ont reçu 40 à 50 personnes par jour. Et là, il y a un vrai souci. C'est la qualité de l'information qui nous est délivrée. C'est une vraie question, et c'est une vraie question démocratique. Quant à la question, j'embraye sur la question du coût, effectivement, nos ressources ne sont pas extensibles, n'ont jamais été extensibles, et depuis des années, nous tournons autour du pot pour savoir quel va être le mode de calcul de financement qui soit le plus adapté. Alors, il y avait la dotation globale, et là, on est tombé dans le problème du service d'essence des armées, donc il fallait craquer le maximum pour pouvoir avoir le maximum pour l'année suivante. Et puis, on est arrivé sur la T2A, tout le monde crie enfin, tire à boulet rouge sur la T2A. En fait, la T2A, au début, elle était destinée à financer des actes extrêmement normés et des actes essentiellement chirurgicaux. Ce qui fait que, par exemple, les soins palliatifs, certaines responsabilités, par exemple pour la prise en charge de la grande précarité dans les hôpitaux, ne relèvent pas du tout de la T2A. La T2A recouvre qu'une partie finalement assez peu importante du financement des hôpitaux. Le problème des Français, c'est que quand on compare nos dépenses dépenses de santé versus les Allemands, les Anglais, les Espagnols ou qui vous voudrez, on en dépense énormément. Pour un résultat avec des marqueurs de santé publique qui sont pas bons, comparativement à ceux de nos petits camarades de jeu. Et pourquoi ? La raison essentielle, c'est que tout le système de soins français et toute son histoire est hospitalo-centré. Et vous avez vu le Ségur de la santé, il était strictement hospitalo-centré. La médecine de ville, les paramédicaux de tout poil sont tous passés à l'AS et c'était donc les médecins des hôpitaux qui ont été caressés dans le sens du poil. Donc c'est un système extrêmement centré. Donc l'hôpital, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait du cure, d'accord ? Il soigne, il fait du curatif. Il ne fait en aucun cas de la prévention. Et c'est le bas qui blesse de notre système. On n'a pas de politique de prévention large, d'accord, qui puisse permettre de diminuer nos coûts de soins. Et c'est une réflexion extrêmement importante. Si je prends des grandes maladies connues, le BCG n'a jamais soigné la tuberculose. D'accord? C'est l'augmentation du niveau de vie qui a permis d'éradiquer la tuberculose. Et pourquoi nous voyons maintenant de plus en plus de tuberculose en France? Ce sont des tuberculoses importées. Alors, elles ne sont pas importées par les gens qui traversent la Méditerranée, très peu. Hein. C'est la tuberculose qui arrive d'Europe de l'Est, qui a été traitée, qui arrive avec des tuberculoses ultra-résistantes et qui posent de gros problèmes de prise en charge. Donc, je crois, pour être rapide, que finalement, l'histoire des coûts, c'est une question de réflexion sur l'organisation des soins et les objectifs qui sont poursuivis. Si on veut faire du cure et de la science, on est dans le bon chemin, il n'y a pas de souci. Mais ça coûte. Mais ça peut rapporter gros. Et on ne fait absolument pas de prévention. Quand vous pensez à la médecine scolaire, qui est le parent pauvre de chez les parents pauvres, quand vous pensez à la médecine carcérale, où là, il y a une population captive, sans jeu de mots, où on peut faire de la prévention, niet. Donc il y a tout un système qu'il faut repenser, et quand on voit la façon dont le Covid a été géré au mois de mars, on a fait du curatif, uniquement du curatif. On aurait très bien pu demander aux Français, un, de porter des écharpes, Trump l'a proposé, donc on aurait pu le faire, et puis on aurait pu fabriquer des masques. Ça aurait déjà diminué la dispersion du virus, et on aurait pu proposer des solutions de distanciation qui soient moins violentes que le confinement. Voilà.
Bruno, éventuellement.
Non, ben par rapport à ce que vous avez dit, c'est évidemment sur la santé, la vie d'une personne n'a pas de prix, mais la santé a un coût. Donc il faut faire avec, c'est clair, on ne peut pas tout financer. Ce sur quoi je voulais insister, c'est que dans la réflexion, il y a certains biens de santé qui doivent échapper aux voies du marché. C'est ça que je trouve intéressant dans la réflexion. Et donc il faut définir des biens communs de santé qui, eux, vont échapper aux lois du marché. Mais il y aura toujours des gens qui demanderont telle prestation, telle... Voilà, bon, mais à un moment donné, on dira, la société ne peut pas tout financer. Enfin, c'est la difficulté que nous avons en France, c'est-à-dire, on finance tout. Mais c'est extrêmement difficile à réfléchir aussi sur quels sont finalement les biens de santé qui sont communs et qui, comme tels, doivent échapper au marché. Ça mérite toute une réflexion. Mais c'est ça qui me paraît essentiel. Évidemment, pour soigner, il faut aussi compter. Il faut compter les médicaments, il faut compter les heures, il faut compter les sous. Mais comme le disait Jean-Philippe Pierron, philosophe du soin à Lyon, il faut compter COMPTER, mais en comptant, il ne faut pas cesser de compter CONTER. C'est-à-dire qu'en fait, le défi aussi, je pense, de la dérive comptable, c'est de ne plus mettre des vies sous des chiffres. Et donc, et c'est pour ça que les récits de soins sont intéressants, parce que c'est des récits qui remettent de la parole, on pourrait dire, sur des chiffres. C'est vrai, quand on entend le docteur Galichon, on remet des... Il y a chaque fois des vignettes cliniques, il y a des histoires. Et qu'en fait, les chiffres ont toujours besoin d'être parlés, en fait. Sinon, comme dirait Alain Supiot, le gouvernement... est remplacé par la gouvernance par les nombres, quoi. Voilà. Donc c'est ça peut-être le danger. C'est qu'à un moment donné, nous ne percevons plus la vie qui est mobilisée derrière les chiffres, quoi. Donc il faut ne pas cesser de compter et raconter, au sens faire parler des chiffres. Et pour faire parler des chiffres, on a besoin des gens qui sont in situ. Donc on a besoin des avis des médecins, des soignants, etc., qui disent aussi ce qui se passe. Et puis peut-être qu'il y aura une réflexion aussi aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui paraissent sur les aidants aussi, hein. avec toute la question. Il faut aider les aidants financièrement. Les aidants sont aussi épuisés actuellement. Donc, finalement, qui soigne qui est devenu une véritable question. Les aidants étaient complètement invisibles pendant longtemps. Donc, les aidants dits naturels, enfin familiaux, etc., disons les proches, pendant longtemps, étaient aussi là complètement invisibles. Et un des mérites aussi de la réflexion sur le soin, c'était de montrer qu'en fait, pour bien vivre, nous nous appuyons sur des aidants multiples. Voilà. Et qui ne sont pas visibles, quoi. Ils disparaissent des radars. Et puis à un moment donné, on se dit, mais cette personne-là, elle prend sur son travail ou elle prend sur sa vie pour aider son père, sa mère, un cousin, une cousine, etc. Et on se met donc à aider les aidants, à les financer, parce qu'on reconnaît en fait qu'il y a un véritable service rendu et qu'il faut une reconnaissance également financière. Alors ça, je pense que c'est vraiment un progrès aussi. Là, ici, il faut compter parce qu'il y a des sous, mais on a ouvert les yeux et les oreilles sur le soin d'une nouvelle manière. Et on s'est dit, mais ces personnes-là, que l'on ne voyait pas, elles assurent une très grande qualité de soin. Et les prendre en compte. Voilà. Mais bien sûr qu'il faut compter, ça c'est sûr, sinon ça serait complètement... Et si possible, ne pas opposer ceux qui comptent et ceux qui pratiquent le soin, quoi. Parce qu'on pourrait dire, ils sont tous là pour un même service. Mais il faut les... Donc toutes les questions de gouvernance à l'hôpital sont compliquées, parce que qui a le pouvoir? Est-ce que c'est les administratifs? Est-ce que c'est les médecins? Bref, comment ils dialoguent, tout ce petit monde-là? Je pense que c'est compliqué, c'était un des problèmes aussi du Ségur de la santé. Qui assure la gouvernance? Et donc, avec quelle réalité derrière les chiffres? Enfin, comment c'est parlé? Quel type d'attention il y a derrière? Bon, voilà, mais...
Juste un petit point de bibliographie, si cette question vous intéresse. Vous connaissez la collection Tracts de Gallimard. C'est des petits volumes de 3 ou 4 euros, je ne sais plus. Et vous en avez un absolument remarquable, qui a pour titre « L'hôpital comme industrie », qui est écrit par Stéphane Velu. Stéphane Velu est chef de service de neurochirurgie de l'hôpital du CHU de Tours. Et il prend simplement les éléments de langage utilisés à l'hôpital et dans l'administration pour décrypter justement toute la philosophie de financement de l'hôpital et de comment on le considère comme un producteur de soins. Voilà, il fait du cure et pas du care. Et c'est extrêmement pertinent, c'est d'une impertinence extrêmement pertinente.
Alors, il nous reste le temps pour encore une salve de 3 questions. Avant de terminer, que vous preniez le temps pour aller acheter les fascicules à la sortie. Alors, il y a une main qui s'est levée au milieu. Oui, et devant aussi, ça va. Voilà, au milieu.
Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous dites. On parle beaucoup du soin, soin médical, soin médico-social. Pourtant, quand vous avez défini le care, vous avez parlé de réparer notre monde de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Moi, ça me fait quand même assez vite penser au dérèglement climatique, tout ça.
Bien sûr.
Et du coup, la question que j'avais, c'est quelle est la dimension écologique du care, c'est-à-dire en termes éthiques, politiques, d'action, et aussi comment elle s'articule avec ces autres dimensions, donc sociales, médico-sociales.
Voilà, merci. Alors, on va revenir devant. Par ici. Relevez la main, s'il vous plaît. Oui.
Merci. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit précédemment. Ah oui. C'est aussi un point qui pour le monde entier, pour la population entière, c'est la fin de vie. Et si on écoute ce que l'humain désire, la plupart du temps, c'est rester chez soi. Et moi, j'étais confrontée au problème. Je me suis rendu compte que c'était très, très difficile de garder ses parents chez eux. Et contrairement à ce qu'on dit en politique aujourd'hui, qui est qu'on peut avoir l'hôpital chez soi, une journée d'hôpital coûte très, très cher. Et en fait, ça n'existe pas. Donc, on ne trouve aucun moyen d'avoir l'hospitalisation réellement chez soi pour les gens lambda. Il n'y a pas d'aide. Et financière ni humaine. Et j'ai vu que le problème se posait donc pour les personnes âgées et de même pour les personnes handicapées. Donc c'est quelque chose que je ne comprends pas très bien quand on parle de politique du care, parce que dans la réalité, il y a véritablement un domaine où il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à faire pour ces deux domaines-là.
Merci. Alors, on va remonter en fait à la première intervention, la voisine du premier intervenant. J'avais pas noté que la main s'était levée. Pardonnez-moi.
Et merci. Alors, je ne m'adresse qu'à des hommes puisque Fabienne Brugère n'a pas pu venir. Et pendant le confinement, a été mise en valeur dans la presse, dans la radio, le rôle peut-être plus particulier des femmes dans le Caire. Et on a beaucoup entendu que c'était peut-être notamment les femmes qui étaient plus actives et plus impliquées dans le soin. Voilà, sur le Caire, la santé, avec le rôle des infirmières, des aides-soignantes, des aides à domicile, le Caire dans l'alimentation avec le rôle des caissières, notamment le soin parental, où on a entendu aussi que c'était peut-être plus les épouses et les mamans qui prenaient en charge le Caire au sein de la famille, la pacification des relations familiales. Voilà, et donc, que pensez-vous de l'idée selon laquelle peut-être le soin, notamment dans sa dimension affective et perceptible, serait peut-être un attribut plus intrinsèquement féminin.
Merci. Oui, de fait, Fabienne Brugère regrette beaucoup de ne pas être présente, mais elle m'a annoncé il y a quelques jours qu'elle était vraiment bloquée chez elle. Voilà, j'espère que ça ira mieux bientôt. Alors, réparer le monde. Et merci à Bruno Saintot d'avoir remplacé Fabienne Brugère au pilier.
Oui, j'ai un gros défaut, c'est que je suis un homme et bon, c'est comme ça. Et puis je suis jésuite aussi, donc ça fait un deuxième défaut. Et, voilà. Non, mais merci de vos questions, je vais répondre. D'abord, l'extension du soin. Alors, c'est vrai qu'en fait, la problématique écologique est prise en compte. Hein. Quand vous regardez les définitions de la santé, par exemple, prises par l'OMS, donc vous avez un certain nombre de concepts de santé qui évoluent. Et puis le dernier, c'est le concept de One Health, une seule santé. Et ce concept d'une seule santé comprend la santé humaine, la santé des vivants, enfin des animaux et des vivants, et la santé de l'environnement. Alors on pourrait dire que quand j'ai souligné la dimension perceptive, c'est que si on souligne la dimension perceptive, bien sûr je vais me soucier de la santé des humains qui sont autour de moi, mais également des autres vivants, et puis ensuite de la création qui héberge tout ce monde-là. Donc il y a une vive conscience actuellement que le soin n'est pas simplement prendre soin, c'est pas uniquement prendre soin des humains, mais pour bien en prendre soin, il faut avoir une conception systémique du soin. Et dans cette conception systémique, il y a les autres vivants, il y a l'environnement. C'est pour ça que la définition, on peut dire, de Tronto est très extensive. Alors on pourrait dire, mais si c'est trop extensive, c'est pas opérationnel. Mais je pense qu'on peut la décliner de manière systémique, de la même manière que les concepts de soins sont pensés maintenant de manière systémique. Donc je ne peux pas penser la santé humaine sans penser la santé du monde animal et sans penser la santé de l'environnement. Ça me paraît extrêmement fort. Donc tous les livres, enfin ceux qui, bon, j'ai un sous les yeux, l'ouvrage de Jean-Philippe Pierron, « Prendre soin de la nature et des humains », oui, de la nature et des humains, médecine, travail, écologie. Donc la grande idée que tout est lié, elle nous conduit à aussi un concept de santé systémique et à un prendre soin systémique. Donc ce que vous avez dit, tout à fait d'accord. Hein, oui. C'est pas le terreau initial, mais dans la définition de Tronto, il y avait cette acception plus large qui ouvre la possibilité de le penser. En tout cas, tous les philosophes du soin actuellement en France prennent en compte cette dimension-là. Voilà. J'ai des références, je pourrais vous donner, si vous voulez. Et puis deuxième, est-ce que le rôle des femmes, quand on prend en compte l'histoire de du terme même care, je n'ai pas trop le temps de faire là parce que j'ai une minute ou deux.
Mmh. Ouais. Trois minutes, allez.
En fait, la première compréhension du care ou acception du care, elle est venue du fameux livre de Carol Gilligan, Une voix différente, qui s'opposait aux conceptions du développement moral de Kohlberg. Kohlberg était quelqu'un qui avait en fait pensé la psychologie du développement moral en disant que finalement on accédait au summum du développement moral quand on avait une perspective universaliste. Et il y avait un certain nombre en fait d'enquêtes qui étaient faites pour discerner chez les enfants quand est-ce qu'ils accédaient finalement à quelque chose de plus grand qu'eux. Et Kohlberg avait structuré le développement de la psychologie morale en étapes, la dernière étant finalement d'accéder finalement à une conception de l'universel, finalement une sorte d'héritage kantien revisité de l'universel. Et Carol Gilligan, en disant une voix différente, elle a procédé à des enquêtes pour regarder comment les enfants, alors garçons et filles, résolvaient le fameux dilemme de Heinz. Donc on pourrait reposer le dilemme de Heinz aujourd'hui. Heinz a une femme qui est très malade, par exemple du Covid. Il y a un traitement qui existe. Il est possédé par le pharmacien. Mais le traitement est tellement cher que Heinz ne peut pas acheter le médicament. La grande question, et même en négociant avec le pharmacien, il a essayé, etc., il ne veut pas. La grande question qui est posée, c'est est-ce que Heinz a le droit ou le devoir moral de voler le médicament pour sauver sa femme, voilà, parce qu'il y a un enjeu de vie et le médicament est très cher, ça. Alors, donc, vous voyez, dispute, et on regardait comment les garçons et les filles résolvaient le problème. Et Carol Gilligan montre qu'en fait, les filles, voilà, c'est comme ça que ça s'en va, ont en fait une attention beaucoup plus grande à la singularité de la relation. Donc alors je sais pas s'ils étaient, comment ils étaient formatés, ces petits garçons, voilà, mais eux, ils pensaient, vous voyez, si on vole, il n'y a plus de société possible, quoi, vous voyez. Et alors, en fait, les filles prenaient un autre mode de raisonnement en individualisant, singularisant et en mettant en œuvre la singularité de la relation, la force de la relation. Heinz n'est pas tout le monde, il a une femme, c'est une singularité, et il souffre, et sa femme veut mourir si on ne soigne pas. Comment on peut faire pour trouver un chemin? Alors on va peut-être parlementer avec le pharmacien, puis s'il veut pas, on fera appel à tous ses copains pour trouver de l'argent, etc. Vous voyez, donc l'idée, c'était de trouver un chemin plutôt que prendre les grands principes éthiques. Voilà. Bon. Et c'est par là que Carol Gilligan a formulé le concept de care comme forme d'attention, en mettant en évidence à la fois la sensibilité à ce qui arrive à quelqu'un et la singularité de la relation, pour résoudre des dilemmes éthiques. Vous ne pouvez pas utiliser simplement des grands principes universel pour résoudre des dilemmes éthiques comme ça. Il faut prendre en compte la sensibilité morale et prendre en compte la singularité de la relation. Voilà. Alors, il a montré que c'était plus spécifiquement féminin. Le grand danger, c'est, comme diraient tous les féministes, c'est d'essentialiser une capacité. Pas alors, vous n'allez quand même pas définir les femmes par le soin, c'est inadmissible. Et en fait, le projet de Johann Tronto, c'était en fait, de dégenrer le care. Elle a bien pris en compte que dans la société, le soin était assuré massivement par les femmes, y compris du point de vue de l'attention à, pas uniquement du point de vue évidemment de ce qui est fait, mais du point de vue de l'attention à. Mais son souci politique, c'était de dégenrer le care et de faire du soin quelque chose qui préoccupe tout le monde. Et pas dire, c'est l'affaire des femmes, qu'elles s'en occupent. Hein. Voilà. Puis nous, on sera tranquille, c'est pas. Non. Alors voilà. Donc, je comprends bien ce que vous dites comme forme d'attention à. Après, on peut se poser la question est-ce que vous n'êtes pas en train d'essentialiser ? Et puis, quel est le facteur culturel qui est derrière ? Oui, parce que les filles, tout de suite, on leur apprend à prendre soin du petit, de l'autre, oui, et pas les garçons. Donc, plutôt que d'essentialiser, il faut se poser la question qu'est-ce qui fait que dans une société, c'est plutôt les femmes qui le font ? Et peut-être qu'il y a des aspects culturels. Et puis parce qu'il faut peut-être, alors on essaie maintenant d'enlever le congé parental, le papa, on lui dit, on lui met plus de jours, mais on lui impose de prendre plus de jours. Bon, enfin, on peut discuter, ça, voilà. Bon, voilà, mais voilà, à la fois je souscris à ce que vous dites, et en même temps, il y a des gros warnings chez moi, c'est l'essentialisation des capacités, quoi. Les femmes sont comme ça, c'est pas vrai ? Alors, les femmes vous disent, pas du tout. Puis là, vous avez tous les mouvements féministes qui vont vous tomber sur le dos, vous êtes en train d'essentialiser les femmes. Et ça a quand même quelques petits inconvénients.
Alors, l'hôpital à la maison, enfin, oui. D'autres éventuellement.
Mais la question de la délocalisation de l'hôpital, c'est une question qui est assez essentielle pour, et on le voit avec des indicateurs extrêmement, extrêmement importants, qui est la fameuse baisse de la DMS, durée moyenne de séjour. La durée moyenne de séjour des patients, des malades, continue de façon vertigineuse. Là, on est largement sous la semaine, voire les 3-4 jours d'hospitalisation. L'hôpital n'est heureux que quand il voit le talon des patients. Et malheureusement, il faut aller les mettre quelque part, il faut leur proposer une alternative. Et là, effectivement, s'ouvre la proposition d'hospitalisation à domicile. Mais alors, il y a deux écueils importants. C'est qu'il faut qu'il y ait un médecin derrière qui puisse coordonner l'activité de tous les intervenants à domicile. Je vous fais pas le chapitre du statut, de la situation des médecins généralistes aujourd'hui en France. Donc un travail extrêmement difficile et pour lequel ils ne sont pas obligatoirement formés ni surtout équipés. Deuxième intervenant extrêmement important, ce sont les infirmiers. Mais les infirmiers deviennent une denrée rare, puisque la durée moyenne d'activité professionnelle d'une infirmière dans sa vie est de plus en plus brève. Voilà. Et il faut aussi pouvoir former tout ce personnel à cette fonction extrêmement particulière, puisqu'on va travailler seul sur le terrain de l'autre et pas à l'intérieur de sa blouse. Autre intervenant extrêmement important et qui est une population extrêmement pauvre, ce sont les aides ménagères. Voilà. Et là, on rejoint la question du soin féminin. D'accord? Voilà. Donc, à partir du moment où c'est féminin, eh ben, ça peut coûter moins cher, d'accord? Et puis, la vertu de leur travail peut être vécue comme une rémunération. Mais ça marche pas comme ça. Et en plus, quand on regarde dans les faits, quelle est la population qui assure ce travail d'aide ménagère, ce sont des populations non européennes. Donc il y a un hiatus culturel entre la prise en charge d'une personne à son domicile avec ou sans sa famille et cette personne qui arrive à domicile. Il y a des gens absolument merveilleux, il y a des gens qui font un boulot extraordinaire. J'en suis témoin tous les jours, mais il y a aussi une faillite du système qui ne tient pas. Donc voilà, donc c'est une, à mon avis, c'est une voie qu'on va être obligé de prendre, mais de façon beaucoup plus raisonnée et avec beaucoup plus de moyens que ce que l'on fait à l'heure actuelle, qui est un peu du bricolage. Pour vous dire, dans la vie de tous les jours, dans les services d'urgence, le service d'urgence a un service qu'on appelait avant le service porte. C'est-à-dire des listes d'hospitalisation que l'on voulait de courte durée, maintenant on dit de très courte durée. Il n'empêche que les patients restent au moins 15 jours ou un mois dans le service. Pourquoi? Parce que les capacités de mise en route de cette hospitalisation à domicile avec tout le matériel qui est nécessaire est extrêmement difficile. Parce que il faut que vous ayez l'accord du médecin généraliste. Il faut que vous trouviez l'infirmier. Il faut que vous trouviez l'association d'aide à domicile qui soit capable de le faire. Il faut que vous ayez l'assistante sociale qui va monter le dossier. Il va falloir que vous trouviez tous les modes de fonctionnement. Enfin bref, c'est une usine à gaz, d'accord? Et donc, voilà toutes les difficultés. Mais il est clair que c'est une voie qu'il faut absolument creuser et puis de façon extrêmement urgente. Oui.
Merci beaucoup. Avec votre dernière intervention et celle de Bruno, nous revenons un peu au fond du sujet, qui est cette tension entre l'action politique et l'éthique du care. Leur concordance et leur complémentarité mériteront sans doute ici d'autres débats et d'autres discussions. Alors, pour terminer, une annonce. Notre prochain mardi d'éthique publique aura lieu le 3 novembre. Le 3 novembre, c'est le jour où Monsieur Trump sera réélu président des États-Unis. Non, je plaisante. Mais très originalement, nous consacrerons donc notre soirée aux élections américaines. Voilà. Et puis, un rappel, à la sortie, vous avez des petites caisses dans lesquelles vous pouvez déposer votre participation à l'organisation de ces mardis d'éthique publique. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire de le souligner à nouveau, elle n'est plus que jamais nécessaire. Merci par avance. Et vous avez également, pardon, en vente les publications de la revue Études, les numéros contiennent des articles des intervenants et la petite brochure sur prendre soin. Je vous signale que l'article d'Agatha Zielinski que j'ai cité en introduction, qui date de 2010, il est en accès libre sur Internet. Donc cet article-là, vous pouvez le retrouver en accès libre sur Internet. Merci beaucoup.
Merci.